m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. À travers son communiqué de presse rendu public, le mercredi 28 février 2024, la Commission électorale nationale des pendants saignants sigle a fustigé des actes de corruption qui seraient l'œuvre de certains candidats prétendant à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC. Dans ce communiqué, la CENI rapporte que ces actes se font auprès des grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Elle relève aussi l'exigence d'une somme d'argent aux candidats en échange des suffrages. La CENI rappelle que la corruption constitue un acte répréhensible et une infraction condamnable dans le code pénal congolais. Sachez qu'initialement prévu pour le 1er mars 2024, la CENI a reporté la clôture des dépôts et traitement des candidatures à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs au 8 mars 2024. Que pensez-vous de cette dénonciation de la CENI sur les tentatives de corruption de certains candidats à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs pour aussi y réagir en direct en composant les 081-893-30 ou les 081-899-4969. Pierre Dassinois est à la mise en œuvre de ce magazine. Grâce vos yeux, la solarisation et la coordination micro, c'est Marcel Gombombala. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Radio Okapi célèbre ses 22 ans d'existence à l'Université de Kinshasa avec Okapi Service. Venez participer à l'enregistrement d'une émission spéciale ce mercredi 6 mars des 12h à 14h dans la salle Monekoso près des cliniques universitaires de Kinshasa. Au programme Amélioration du climat des affaires, lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Spécial Okapi Service à l'Unikin, ce mercredi 6 mars, un rendez-vous à ne pas manquer. Retrouvez Jody Daniel Keshama et toute l'équipe pour des moments d'échange inoubliables. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Cette émission en Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Je le disais à travers son communiqué de presse rendu public le mercredi 28 février 2024, la Commission électorale nationale indépendante a fustigé des actes de corruption qui seraient l'œuvre de certains candidats prétendant à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC. Dans ce communiqué, la CENI rapporte que ces actes se font auprès des grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Elle relève aussi l'exigence de sommes d'argent aux candidats en échange des suffrages. La CENI rappelle que la corruption constitue un acte répréhensible et une infraction condamnable dans les codes pénals congolais. Quiconque s'y livre s'expose à des poursuites exemplaires, précise cette institution d'appel à la démocratie et qui est chargée d'organiser les élections en RDC. Elle invite donc les candidats à compétir en toute loyauté et à éviter toute forme de fraude et de corruption pendant ces élections. Alors, pour commenter ces sujets, si tout va bien, nous aurons en ligne Itiel Batoumiki, chercheur à Ibouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Pour l'instant, on va ouvrir le standard et suivre, les commentaires des auditeurs par rapport à ces sujets. Alors, on y va. D'abord avec Maître Ali Joseph qui nous appelle depuis Calémi. Maître Ali Joseph, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport, en tout cas, à cette dénonciation de la CENI sur les tentatives de corruption de certains candidats à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs?
Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'octroi de la parole et l'opportunité que vous m'offrez de prendre part à votre émission. D'emblée, je me redire que les dénonciations faites par la CENI sont fondées. Nous avons tous constaté ces tentatives de corruption dans le chef de ceux qui postulent à des différents postes, précisément dans les cas sous examen, poste de gouverneur et au poste de sénateur. Maintenant, en tant que juriste, personnellement, j'ai du mal à parler de l'infraction des corruptions, mais j'ai fixe beaucoup plus mon idée sur la manière à éviter et à mettre la main sur tous ceux qui oseraient se mêler dans cette tentative de corruption. Étant donné qu'aujourd'hui, les gouverneurs, afin de rafler les élections, qu'est-ce qu'il fait? Il promet, il fait des promesses aux députés provinciaux, leur disant que si vous parvenez à voter pour moi, je vous offrirai ceci, je vous offrirai cela. Aujourd'hui, dans ma province où je vous parle, nous avons un candidat gouverneur, permettez-moi de le dire, qui a déjà acheté des jeeps, des voitures, en promettant aux députés provinciaux, une fois élu,
Maître Ali, ça n'engage que vous, hein, ça n'engage que vous, parce que généralement, lorsqu'on parle de choses comme ça, après on cherche, il faut donner des preuves, tout bon, ça n'engage que vous. On continue alors.
Ouais, donc c'est pour dire que certainement ces dénonciations sont fondées, mais pour parvenir à punir les auteurs de ces genres d'actes, monsieur le journaliste, ça posera toujours problème, puisque là, il ne suffit pas tout simplement de dénoncer, parce qu'avec la RDC, on dénonce quelque chose, mais on ne fait pas des suivis cohérents pour parvenir à punir, à décourager les auteurs de ce genre d'actes.
Mais même
Maître Ali, la campagne électorale, l'unique moyen pour récupérer les dépenses engagées pendant la période des campagnes, c'est dans les offres, c'est dans les promesses des candidats gouverneurs, des candidats sénateurs. Certainement, on constate, on dénonce, mais pour éradiquer ces faits, messieurs les journalistes, ça posera toujours problème. Pourquoi? Parce que cela se fait le plus souvent, c'est en cachette. On ne le fait pas publiquement, on ne publie pas. Mais ce qui se fait clandestinement, comment les dénicher et comment parvenir à punir? Certainement, pourquoi? Parce que ça s'est fait dans l'informel, monsieur le journaliste, et c'est en cachette. Ce n'est pas au su et au vu de tout le monde.
Mais une fois, vous avez suivi, hein, en tout cas, le communiqué de la CEDEAO là-dessus, à quiconque va se livrer, si Jacques d'acte s'expose à des poursuites exemplaires. C'est vrai qu'on peut faire des choses de manière cachée, mais une fois que cela arrivait à être connu, hein, sur la place publique, et que ça s'avérait, que cela est vrai, en tout cas dans ce communiqué de la CENI, on insiste qu'il y aura des poursuites exemplaires. On espère que ça sera le cas. On peut bien faire les choses en cachette, mais il faut faire très attention. Une fois que cela est découvert, ça pourrait être, c'est les personnes concernées pourront s'exposer à des poursuites exemplaires. C'est ce que précise le communiqué de la CENI. Merci Maître Ali Joseph d'avoir réagi depuis Kalemi. Alors on fait signe que notre invité est en ligne, Itiel Batoumouké. Bonjour Itiel Batoumouké.
Bonjour.
Voilà, merci de nous rejoindre dans ce numéro du Parole aux auditeurs, où nous parlons en tout cas de ce communiqué de presse de la CENI, hein, qui a été rendu public le mercredi 28 février 2024, où la CENI fustige des actes de corruption qui seraient l'œuvre de certains candidats prétendant à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC. Et vous êtes chercheur à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Alors, comment vous percevez cette mise en garde de la CENI face à toutes ces tentatives de corruption de certains candidats à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs?
Alors, je pense que la CENI vient à la rescousse des agences gouvernementales chargées de lutte contre la corruption, parce qu'on a vu que dès le 14 février, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, l'APLC, a rencontré le président de la CENI, Denis Kadima, pour lui dire qu'elle était prête pour lancer un numéro vert permettant à la population de dénoncer les actes de corruption au cours de ce scrutin. Mais on a vu que ce numéro tardait à venir, puisque depuis le 14 février, l'APLC n'a pas communiqué ce numéro pour que les gens puissent commencer à dénoncer les faits de corruption qui pourraient caractériser ces élections. Je pense donc que la CENI vient à juste titre pour mettre en garde les personnes qui pourraient verser dans ces actes de corruption. Mais la grande problématique demeure au niveau du défi de la preuve, en fait. Comment est-ce que la CENI pourra prouver dans ces élections indirectes que les gens ont corrompu les grands électeurs que sont les députés provinciaux. On a vu, par exemple, que la corruption dans ces élections sont une pratique récurrente, parce que c'est depuis 2006 qu'on en parle. C'est depuis 2006 que des partis assez représentés au niveau des assemblées provinciales, parfois, arrivent à manquer même un sénateur dans la province où ils sont représentés majoritairement. Et ça, en 2019, on a vu que la population s'est révoltée pour dire comment est-ce que nous, notre parti, avait autant de députés provinciaux mais n'a pas réussi à avoir assez de députés, assez de sénateurs. À l'époque, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait suspendu l'installation du Sénat, suspendu la poursuite de l'élection au gouverneur et ordonné à ce que le procureur général, le procureur de la Cour de cassation, puisse diligenter des enquêtes. Mais jusqu'à ce jour, aucun résultat de ces enquêtes n'a été rendu public et personne n'a été sanctionné dans le cadre de ces allégations de corruption. Et donc, ça prouve en fait la difficulté de prouver qu'il y a eu corruption. Comme le disait l'auditeur, ça se fait en cachette. Il n'y a aucun candidat sénateur ou député qui ira s'exposer pour recevoir de la corruption ou pour fournir de la corruption afin d'obtenir des suffrages. Donc ça reste très problématique et ça pousse en fait beaucoup de gens aujourd'hui à penser est-ce que pour les modes de scrutin des élections aujourd'hui des gouverneurs de province et des sénateurs, il ne faudrait pas avoir une réforme. Une réforme qui va dans le sens par exemple d'aller vers les modes d'élection directe qui permettrait à ce que le sénateur d'une province soit élu par toute la population. Le G13 en 2022 proposait que le mode d'élection des sénateurs et des gouverneurs de province puisse intégrer un système de parrainage, ce qui signifierait que seuls les partis, que seuls les candidats qui recevraient l'investiture des députés provinciaux à l'Assemblée nationale pourraient déposer leur candidature. Ce qui, en même temps, pour l'Assemblée nationale de l'époque, sonnait comme si il y aurait plus liberté de vote parce que le secret du vote serait presque dévoilé dans ce sens-là. Parce que si un député parraine déjà un candidat sénateur, ça signifie qu'il pourrait déjà dire qu'il voterait pour lui, ce qui était déjà très problématique. Alors aujourd'hui, même pour l'élection des gouverneurs, on voit beaucoup de gens qui disent que le gouverneur de province devait être élu par le peuple directement. D'autres disent qu'il devait être nommé par le président de la République pour essayer non seulement de mettre fin à cette corruption qui caractérise ces élections, mais aussi ce tribalisme en fait qui entoure toutes ces questions, la géopolitique entre provinces, entre territoires de la province. On voit que ça soulève beaucoup. Pour les cas spécifiques de la corruption, les gens pensent effectivement qu'il faudrait arriver à mettre ça à la corruption en ayant le mode direct pour ces élections-là.
Alors, vous avez suivi Itiel et Batumouke, vous avez suivi l'auditeur qui a réagi tout à l'heure, Maître Ali Joseph, qui a appelé depuis Calémie. Il a dit, vous êtes aussi revenu par rapport à ça, que c'est des actes de corruption qui se font généralement en cachette. C'est pas toujours facile, en tout cas, d'arriver à mettre la main sur les auteurs de ces actes, en tout cas en flagrant délit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela du mécanisme que vous estimez qu'on pourrait mettre en place, en tout cas, parce qu'il faut le dire, on n'arrête pas de fustiger ces comportements de la part des Congolais, en tout cas la corruption, n'arrête pas de s'enraciner de plus en plus dans le mœurs ici en RDC, surtout au niveau de la sphère politique. Et vous pensez que là, du mécanisme qu'on peut mettre en place de manière assez quand même, que cette mise en garde de la CENI ne reste pas une lettre morte?
La mise en garde de la CENI, elle est inefficace pour moi, parce que même si elle tombe à juste titre, même si c'est ce qui doit être fait, je pense que la CENI est restée dans son rôle de veiller à la régularité du processus électoral. Mais encore faut-il que la CENI soit appuyée par les structures compétentes. Il faudrait que les agences chargées de lutte contre la corruption s'approprie ce communiqué de la CENI, efface de ce communiqué et donne effet à ce communiqué. Puisqu'on a, mais malheureusement, on sait que ces mêmes agences de lutte contre la corruption sont elles-mêmes éclaboussées par, par les actes de corruption, des scandales de corruption. On a vu, par exemple, des changements à la tête de l'APLC pour des faits de corruption. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que l'APLC est dirigée par un intérimaire. Tout ça, ça prouve combien ces agences de lutte contre la corruption sont, sont affaiblies. Aujourd'hui, à part l'inspection générale des finances, et disons peut-être aussi la Cour des comptes, mais qui n'a pas assez de moyens, toutes les autres agences de lutte contre la corruption sont affaiblies. Et je vois donc que la CENI serait en difficulté de pouvoir se saisir de ces cas, encore que pour qu'elle applique les sanctions qu'elle évoque en citant les dispositions des articles 10 et 10 bis de la loi électorale qui parle de l'inéligibilité de la déchéance de l'élu ou de l'annulation de suffrages obtenus par un candidat. Il faut qu'il y ait une décision judiciaire qui reconnaît en fait comme un droit la corruption qui est alléguée et qui finalement soit irrévocable, ce qui dans le cas d'espèce sera compliqué pour la CENI de non seulement de faire reconnaître ces allégations de corruption en fait et en droit devant une juridiction compétente et finalement pouvoir appliquer les sanctions qu'elle suggère ou qu'elle se propose d'appliquer contre les différents candidats sénateurs ou gouverneurs. Et donc aujourd'hui la tâche revient à ces agences-là. L'APLC devait mettre en place le numéro vert et faire en sorte que lorsque les dénonciations sont faites, que les personnes qui sont citées soient directement convoquées et entendues pour qu'on espère au moins que l'on peut faire arrêter ces pratiques qui faussent le jeu électoral et qui finalement brade la démocratie, puisque la démocratie, l'élection devient une affaire des personnes qui ont l'argent et non des personnes qui ont des propositions pour faire émerger la société.
Ben on va poursuivre avec vous, Étienne Batoumik, qui vous garde encore en ligne. Le temps pour nous de continuer à recueillir d'autres réactions sur par rapport à ces sujets avec le standard. Il y a Dieudonné qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Dieudonné.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour également à notre invité aux auditeurs de la radio Katine.
Alors vous avez suivi en tout cas la réaction de Maître Ali Joseph qui vous a précédé également en tout cas à l'analyse qu'a faite notre invité Itiel Batoumike qui est chercheur à Ibouteli, qui est Institut Congolais de Recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. On craint que cette mise en garde de la CENI par rapport à en tout cas des tentatives de corruption de certains candidats prétendant à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC reste lettre morte simplement parce que il n'y a pas vraiment de mécanismes qui peuvent être mis en place pour essayer vraiment de pouvoir être témoin de ces actes, c'est-à-dire de voir ces candidats et en flagrant délit hein, des corruptions. Et notre invité estime qu'il faut des structures de lutte contre la corruption puissent prêter main forte à la CENI, de façon qu'en tout cas, ces candidats, sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs puissent prendre cette mise en garde de la CENI au sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, merci beaucoup, monsieur Marcel. En tout cas, je tiens à saluer l'analyse faite par l'invité aussi, l'intervenant qui m'a précédé. Bon, quand bien même nous saluons cette dénonciation prise par la CENI concernant les tentatives de corruption, monsieur Marcel, si la CENI est tellement est ferme dans sa prise de décision, ils doivent monter toutes les stratégies pour dénicher les tentatives de corruption, quand bien même opposant le mémoire, Félix Tshisekedi avait dit que la corruption est déjà une échelle jamais vue dans le monde de l'humanité. Mais si la structure, la CENI, est bien organisée et il est ferme dans sa propre décision pour un processus électoral crédible et transparent, j'espère que toutes les mesures seront prises pour dénicher. Et si au cas où nous verrons qu'il y aura la tricherie ou la corruption et que la CENI n'a pas joué son rôle, à ce moment-là, on pensera que non, parfois d'autres décisions prises ont été faites pour plaire à certains candidats ou à certains, à certaines autorités. Alors, M. Marcel, moi j'avais une question. Quand bien même l'invité m'a déjà répondu à une question que je me demandais, mais j'aimerais encore savoir comment la CENI compte-t-elle sensibiliser davantage les électeurs et les candidats sur l'importance de respecter l'éthique et l'intégrité lors des élections pour prévenir de telles pratiques à l'avenir.
Ben voilà, et d'ailleurs, merci à Dieudonné d'avoir appelé depuis Kinshasa, et d'ailleurs dans ce communiqué du 28 février 2024 par rapport à cette mise en garde, en tout cas la CENI a rappelé aux candidats à compétir en toute loyauté et à éviter toute forme de fraude et de corruption pendant ces élections. Merci Dieudonné d'avoir appelé depuis Kinshasa. Georges Kilangalanga, vous êtes à Kisangani. Bonjour Georges.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et à notre invité.
On vous écoute.
Oui. Monsieur Marcel, vous savez, cette thématique est très importante. D'abord, j'aimerais dire que la mise en garde de la CENI est un non-événement, surtout que, on le sait, l'administration électorale en République démocratique du Congo tourne autour de la corruption. Et par conséquent, même la société, généralement, les différents rapports, même des rapports internationaux, l'ont dit, la RDC est classée parmi les pays le plus corruptible du monde. Alors, moi, je pense qu'on devrait plutôt penser en termes de solutions, comment est-ce qu'on pouvait solutionner le problème de la corruption, parce que même si on le dit, je crois, même notre invité, d'autres intervenants l'ont dit, la corruption, d'abord, ça va se poser un problème d'administration de preuves. Il n'y a pas de preuves. Donc, c'est quelque chose qui se cachette. Mais également, en plus de ça, les députés provinciaux jouissent des immunités parlementaires, aveugles d'ailleurs. Et il y a même certains candidats gouverneurs qui jouissent également des immunités parlementaires parce qu'il y en a parmi eux des députés provinciaux. Donc, vous voyez que c'est bien un problème. Mais la solution, selon moi, passerait par donc, des sanctions. Malheureusement, nos législateurs, lorsqu'il faut, il faut mettre de l'ordre dans les secteurs, dans l'administration électorale, nos parlementaires sont complaisants. Lorsqu'il faut sanctionner, par exemple, des actes de corruption qui sont connus, les parlementaires n'en veulent pas. C'est ça tout le problème. Selon moi, le Parlement doit jouer son rôle de légiférer, surtout sur cette matière, parce que ça touche à la vie démocratique, à la vie démocratique d'un pays. C'est à cause des corruptions généralisées, le pays connaît cette gestion que nous avons. Donc, moi, selon moi, le Parlement devrait jouer le rôle. Et également raisonner comment est-ce qu'on peut renforcer les mesures de lutte contre la corruption, parce que sinon il n'y aura pas d'avancement. Imaginez un gouverneur qui est élu sur base de corruption, quand il passe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord récupérer son argent et c'est le pays qui va en souffrir.
Mais vous avez Georges, vous avez suivi, en tout cas pour l'éviter, il y a l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, qui en tout cas pourra jouer également un rôle en prêtant main forte à la CENI, parce qu'il faut le dire, la corruption, on en parle, la corruption s'est enracinée dans nos mœurs, politiques, en tout cas, même dans la vie sociale, mais il faut faire en sorte que on puisse toujours essayer de continuer à sensibiliser, de continuer à interpeller. Là, par exemple, avec la CENI, à travers son communiqué, la CENI est claire, la CENI a précisé ceci dans son communiqué: quiconque se livre à ces actes de corruption s'expose à des poursuites exemplaires. On attend de voir pour pour ceux qui seront peut-être attrapés en flagrant délit de corruption, qu'est-ce qui va réellement se passer avec la CENI? Parce que on va dénoncer, c'est bien, mais vous l'avez dit, il faut qu'on puisse également penser à faire en sorte que ces gens qui sont attrapés puissent en tout cas subir la rigueur de la loi. Donc on verra et comment ça va se passer, peut-être que ces candidats à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs, en tout cas, et comment on dit, vont prendre conscience que les choses bougent quand même avec la CENI, qui fait un effort vraiment d'interpeller et de sensibiliser par rapport à la corruption. Et la CENI, dans son communiqué, a également demandé aux candidats compétir à toute loyauté. Merci Georges Kilangalanga d'avoir appelé depuis Kisangani. Une réaction sur la page Facebook Parole aux auditeurs, c'est celle de Augustin Chipamba. Depuis Kananga, la CENI doit aussi citer publiquement les noms des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs et les transférer à la justice pour que la justice fasse son travail. Il ne devrait pas seulement se contenter de fustiger ou de blâmer, mais il doit faire quelque chose au lieu de parler seulement sans rien faire. Voilà, c'est une réaction de Augustin Chipamba depuis la page Facebook Parole aux auditeurs. On va poursuivre avec des auditeurs en ligne. Il y a Maître Ouli Mwengu qui nous appelle depuis à Bukavu dans le site Kivu. Maître Ouli Mwengu, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous ceux là qui suivent en ce net moment la fréquence de la CENI.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous aussi, vous pensez que ces communiqués de la CENI qui fustigent des actes de corruption de certains candidats prétendants à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs risquent de rester à lettre morte?
Oui, mais... Allô?
On vous écoute, vous êtes bel et bien en ligne. Allez-y, Maître Ouli Mwengu.
Oui. Merci beaucoup. J'ai suivi les communiqués, messieurs les journalistes. J'ai suivi les communiqués et je remercie et je félicite beaucoup plus la CENI pour cet acte qu'elle a fait. Parce que c'est une innovation depuis les élections de 2006 qu'on voit des choses que moi-même je vois. La dénonciation des cas de corruption dans les votes des gouverneurs et sénateurs, mais aussi avec l'annulation des fraudes des élections dans certains territoires liés. C'était une bonne chose. Moi, j'apprécie et j'encourage. Alors, malgré cela, la CENI ne pouvait pas se limiter par là. On devrait, comme d'autres auditeurs viennent de le dire, de citer les noms ou de saisir la justice immédiatement, pas se réserver le droit de saisir. Saisir directement la justice si elle a des preuves à l'appui, pour que la justice puisse faire son travail. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de comportement. Imaginez-vous, comme le prédécesseur vient de le dire, si ces gouverneurs-là parviennent à passer à être élus, les sénateurs-là aussi parviennent à être élus par corruption, qu'est-ce que nous allons avoir dans le Sénat? Qu'est-ce que nous allons avoir dans les gouvernements provinciaux, les représentants les représentants du président de la République dans les provinces, donc les gouverneurs? Qu'est-ce que nous allons avoir aussi même dans nos parlements, dans nos assemblées provinciales, les corrupteurs et les corrompus? Non, ça c'est une chose qu'on ne peut pas voir. C'est pourquoi moi j'ai dit que la CENI devrait immédiatement saisir la justice. Les procureurs sont là, devraient directement être saisis afin qu'ils puissent entamer des poursuites et sanctionner ces éléments. Ça on ne peut pas laisser passer. C'est pourquoi moi j'ai réfléchi. Quand j'ai vu le communiqué de la CENI, directement je me suis demandé, c'est ça la conséquence quand dans un État, on n'a pas de marge, on n'a pas de marge à préciser pour que les gens puissent postuler à de certains postes, parce qu'ailleurs on connaît. Si vous n'avez pas telle fortune, si vous n'avez pas tel moyen, vous n'êtes pas dans tel rang, il y a des postes que vous ne pouvez pas postuler. Si une fois vous passez comme à ce poste-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez directement corrompu, comme chez nous en RDC. Hein? Vous êtes cordonnier, vous êtes conducteur d'un taxi-moto, directement les élections, vous postulez comme gouverneur, vous postulez comme député et vous passez. Vous n'avez jamais touché même un billet de $100 en un coup. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Facilement, vous serez corrompu facilement. Hein? C'est pourquoi on devrait saisir la justice et on devrait prendre cette chose-là avec une grande valeur et considération afin que nous puissions, nous, la population, avoir des dirigeants dignes, nous puissions avoir des représentants vraiment qui ne sont pas immoraux jusqu'à à ce point-là. C'est pourquoi nous sommes en train de souffrir, parce que nous sommes en face déjà corrompus. Le gouverneur qui a été corrompu, et qui a corrompu pour passer gouverneur, le candidat là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord chercher à récupérer son argent. Le député là, provincial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord chercher son argent. Alors nous, la population, nous serons abandonnés totalement. Ça, c'est une chose que moi, j'ai vraiment saisi avec angoisse, avec amertume, et je demande à la CENI de publier ce nom, de saisir le procureur de la République, le procureur général, pour que ce député là soit sanctionné.
Voilà, merci Maître Ouli Mwengu depuis Bukavu. On revient à Kinshasa pour accorder la parole à Roger Marcel. Bonjour Roger Marcel.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour à nos invités et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, vous avez la parole.
Bon, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Bon, monsieur, monsieur Marcel, plutôt, parce que j'ai lu quand même la thématique du jour sur la page Facebook, j'ai quand même des écrits parce que regardez, on a eu un peu des cas le 20 décembre avec l'organisation de l'élection par la CIM, où on a eu attrapé quelques candidats avec des machines, à voter, mais on s'est dit comment ces candidats-là s'est retrouvé avec ces machines-là. Aujourd'hui, on peut voir quand même l'inquiétude de la CENI avec la volonté que la CENI nous montre. Ouais. Dire, c'est pas mauvais, mais il faut toujours dénoncer. Parce que on peut avoir quand même des cas où on a eu quand même à dénoncer des candidats qui ont y à tricher ou bien avoir de machines, mais on n'avait pas vu quelque chose au niveau de la justice. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé avec ces processus-là jusqu'alors, on ne voit pas personne sanctionné, on ne voit ni personne arrêté. On pourrait toujours se demander quand même s'il y a quand même la CNI peut avoir quand même la volonté de dénoncer, mais au niveau de la justice, rien ne marche. Parce que dans notre pays, on ne peut pas toujours continuer avec la corruption. Vous avez vu, avec les élections qui se sont passées en 2018, des gouverneurs et des sénateurs, le président de la République quand même avait eu quand même le temps même de suspendre ça ou bien d'attendre par rapport aux élus qui ont toujours d'habitude toujours de donner de l'argent au niveau des sénateurs, des députés provinciaux. On se demande vraiment dans notre pays. On doit aller jusqu'où les chefs de l'État font toujours ces efforts. Il y a eu quand même des aspects, le changement des mentalités, des agences même de corruption, mais ces mouvements-là dans notre pays, ça ne diminue pas. Comment on peut avoir quand même nos dirigeants qui peuvent toujours que nous, on attend quand même de faire mieux. Ces gens-là commencent avec la corruption. Dès qu'il sera élu le gouverneur, il va toujours dire, j'avais dépensé, j'ai eu quand même à dépenser quand même mon argent pour arriver à ce poste. Le mal aussi, c'est avec nos partis politiques, si vous regardez aujourd'hui avec les choses d'autorité morale, c'est eux aussi qui créent ça. Quand vous placez un candidat, on dit que le vote est secret, il faut quand même laisser ces gens-là faire leur choix, de choisir quand même une personne qui mérite, qui peut quand même diriger la province. Aujourd'hui, regardez dans la plupart de nos provinces, n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui ont été nommés, des gens qui ont arrivé là-bas par manque de vision, il peut arriver à la... Il manque quelque chose à faire. Aujourd'hui, dans la plupart, la République démocratique du Congo compte 26 provinces. Si vous allez dans les 26 provinces, là, vous allez voir combien les provinces sont évoluées. C'est par rapport aux gouverneurs qui sont à la tête, qui reste des coopérants avec des députés provinciaux. Au lieu de faire des contrôles comme ils sont déjà là-bas, ils viennent quand même de donner l'argent. Aujourd'hui, avec notre ville de Kinshasa, vous avez vu, pendant, on a passé jusqu'à 5 ans, on avait un gouverneur qui est venu avec un plan. Qui chasse à Boubeto, mais rien n'a marché.
Il faut quand même, dans notre... voilà.
Il faut quand même avoir des gens à la tête qui ont quand même des visions de changer quand même les choses, au lieu toujours de se plaindre. Moi, voilà. je félicite la CENI avec ses initiatives, mais qu'on puisse quand même attraper ces gens-là et les sanctionner. Je pense que prochainement, ça ne
voilà, pourra pas encore. Vous revenez en tout cas tous sous les sanctions. Voilà. Merci à vous, Roger Marcel, d'avoir appelé à Dipi Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Et nous parlons aujourd'hui, en tout cas, de ce communiqué de presse de la CENI qui a été rendu public le mercredi 28 février 2024. Dans un communiqué dans lequel la CENI fustige des actes de corruption qui seraient l'œuvre de certains candidats prétendant à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC. Si vous voulez réagir, le numéro d'appel, c'est les 081-890-6030 ou les 081-890-4969.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Avant de revenir à notre invité Itiel Batoumike, je m'en vais lire d'autres réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. La série réaction de Frère Paty, c'est comme ça qu'il se présente. Il nous écrit, est-ce que la CENI est-elle bien placée pour évoquer cette polémique? Je suis curieux de savoir d'abord le sort de la première tricherie organisée et planifiée par le poids lourd politique et la CENI. Où en sommes-nous? Les machines étaient retournées. Ces voleurs ne reviendront-ils pas comme candidat gouverneur, sénateur? Voilà, c'est Paty Maïmba qui a réagi depuis Bandundu. Et puis il y a également Jérémy Mwamba qui nous écrit les impressions et les constats de la CENI en rapport avec les élections des gouverneurs sénateurs sont à saluer à juste valeur. Cependant, la tâche ne lui sera pas aisée, d'autant plus que lorsque le corrupteur est du camp au pouvoir et qu'il constitue l'unique ticket gagnant, dans ce cas de figure, l'organe aura de la peine pour tout de suite décider. Par ailleurs, ces antivaleurs viennent poser les problèmes sur le mode de scrutin adopté pour des cas qui asphyxient l'élan démocratique. Décidément, il faut punir sévèrement ces gestes qui font reculer notre pays dans la descente aux enfers. C'est Jérémy Mwamba qui nous a écrit sur la page Facebook Parole aux auditeurs depuis Lubumbashi. Itiel Batoumike, vous avez suivi en tout cas les réactions des uns des autres, que ce soit ceux qui sont intervenus en direct ou ceux qui ont réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, je crois que les inquiétudes des uns et des autres sont fondées et les suggestions qui sont faites sont également pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, la grande inquiétude demeure la volonté de la CENI qui ne rencontre pas nécessairement l'efficacité de la justice à pouvoir réprimer les différents cas qui lui sont soumis par la CENI, ou même à mieux les examiner et en toute témérité, comme on le voit lorsqu'on arrête les opposants, lorsqu'on arrête les journalistes. On aimerait que la même justice soit efficace lorsque des cas de corruption, lorsque des cas de tricherie et de fraude sont dénoncés. Mais ce qu'on voit par contre, c'est une léthargie, parce que depuis le 5 janvier jusqu'à ce jour, il n'y a aucune affaire qui est fixée devant une juridiction et on ne sait même pas la suite qui a été accordée à ce dossier, comme s'inquiétait un auditeur qui se demande, mais qui va même jusqu'à se demander si les mêmes personnes qui ont été sanctionnées par la CENI pour des cas de fraude pourrait revenir encore comme candidat sénateur ou gouverneur. En tout cas, en l'état actuel de la législation, n'ayant pas été condamné, rien ne les empêche de pouvoir postuler. Donc, ces personnes-là pourraient encore postuler et voilà la difficulté de notre démocratie. Et je pense aussi que parmi les problèmes qui sont soulevés, c'est parmi les critères d'éligibilité. Un des auditeurs a estimé que le fait qu'on permet à tout le monde d'être élu et député provincial, que cela expose à la corruption parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais touché $100. Je ne pense pas que la corruption soit uniquement une affaire des gens qui n'ont pas touché $100. Il y a des gens qui peuvent avoir touché des millions de dollars et toujours se faire corrompre. C'est juste une question, je pense, des convictions personnelles, mais aussi des répressions qui doivent se faire. Parce que aujourd'hui, on a vu qu'il y a un recul dans la lutte contre la corruption. La loi électorale, dans sa version de 2017, érigeait la condamnation pour corruption en une cause d'inéligibilité à vie. Donc, au même titre que les crimes internationaux les plus graves, comme les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. Mais depuis 2022, au lieu que les questions de corruption soient fortement sanctionnées, on a vu que la loi électorale a enlevé la condamnation pour corruption dans les causes d'inéligibilité à vie. Et ça fait un recul, ça ne dissuade pas les gens ça ne dissuade pas les gens à ne pas s'adonner aux pratiques de corruption, surtout les gens qui font de la politique, parce qu'ils savent que bon, même si on me condamne, je peux toujours revenir d'une manière ou d'une autre dans la vie politique. Et donc, moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui est une réponse quand même par rapport à ces allégations et qui est un suivi de plus près de la part des agences de lutte contre la corruption, afin que les personnes qui ont des intentions de pouvoir s'adonner à ces pratiques-là puissent reculer dans leur plan.
Et en même temps, il faudrait envisager des réformes dans les jours qui viennent. Et je me demandais même si les questions de révision constitutionnelle sont parfois polémiques au Congo, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager des réformes constitutionnelles assez courageuses qui permettent aujourd'hui au pays de rompre avec ce cycle de corruption à chaque fois qu'on organise ces élections? Parce que s'il faut modifier le mode de scrutin des gouverneurs et des sénateurs, il faut réviser la constitution. Et on sait que tout projet de révision constitutionnelle est parfois critiqué ou même rejeté, tant que parfois on ne regarde pas ce qu'il y a de mieux dans cette proposition de réforme. Donc moi je pense que c'est une réforme audacieuse qui aurait pour objectif rendre plus transparent l'élection des gouverneurs et des sénateurs et lutter contre la corruption, cette réforme serait la bienvenue, mais pas une réforme pour juste tripatrier la constitution pour que un troisième mandat, pour qu'on renforce le pouvoir d'une institution quelconque au pays, mais juste pour essayer d'accorder de mettre un peu de transparence et de lutter contre la corruption dans à ce niveau de scrutin-là, ça pourrait aider le pays à aller de l'avant, je pense.
Alors, on revient à vous, Etiel Batoubouki. On va poursuivre avec d'autres auditeurs qui sont en ligne. Xavier Safeli, qui nous appelle depuis le Lubumbashi, également François Okunji, qui est ici à Kinshasa. Xavier Safeli, bonjour.
Oui, bonjour Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bon, on vous écoute, vous avez la parole.
Merci de la parole. Premièrement, je tiens à dire que le communiqué de la CENI traduit le langage de responsabilité de l'ordre républicain et de la raison d'État. En tout cas, c'est très soutenable. Cependant, nous tenons à rappeler une chose, parce que vous savez très bien que la corruption, c'est vraiment un fait très complexe et c'est très, très difficile de la découvrir, parce que lorsque les gens sont en train de faire des corruptions, même pour le moment, à grande échelle, à ces sujets, franchement, c'est très difficile qu'on puisse détecter et qu'on puisse dénoncer facilement, parce que ça se passe vraiment à un niveau de secret extrême. Cependant, je voudrais relever un fait ici, parce que, vous savez, il m'arrive, moi, deux fois, j'ai dit, il arrive un moment où les subtilités politiques se transforment en agurcis politiques qui finissent en douloureuses contorsion et fait le lit du sentiment, du doute au regard de l'évolution de notre pays. Regardez ce qui se passe en ce qui concerne les élections de sénateurs et gouverneurs. Lorsque on procède à sélectionner des gens pour l'Union sacrée, par exemple, mais il y a des inquiétudes. Parce que notre souci est que le chef de l'État, notre souhait ardent, c'est de voir le chef de l'État, cette fois-ci, réussir avec brio. Parce que lui-même l'a dit, que les erreurs du passé ne doivent plus jamais se répéter. Et nous voulons que le chef de l'État réussisse. Pour que le chef de l'État réussisse, parce que, je prends l'exemple d'un gouverneur, le gouverneur n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un petit monsieur, vous le savez, c'est un représentant légal dans la province. Il est là pour rayonner la vision du président de la République. Il est là pour représenter l'autorité du président de la République. À ce titre, nous savons très bien, moi qui suis en train de vous parler ce matin, je suis de la province du Haut-Katanga, et précisément à Lubumbashi. Vous voyez notre province du Haut-Katanga actuellement, nous sommes dans le chaos. Nous devons nous dire la vérité, rien ne marche, les impayements, tout ce que vous connaissez. Mais il faudrait que, à cette occasion qui nous est offerte de élire un autre gouvernant de province, soit quand même bénéfique au peuple congolais, parce qu'il faut profondément changer des choses. Nous avons besoin de nouvelles têtes qui doivent piloter cette province. Et également aussi en ce qui concerne le sénateur. Il est de même. Le sénateur, nous l'avons vu par le passé, le chef de l'État d'ailleurs l'avait décrié, on a vu que les fautes passives qui se passe lors des élections des sénateurs ainsi que des gouverneurs parfois, bon, on s'est dit, c'est vraiment difficile à éradiquer, comme l'inquiétude de la CENI est juste. C'est vraiment difficile d'éradiquer. Mais on peut y arriver si on y met beaucoup plus de sérieux, on active les services ayant les services attitrés à ce sujet, assurément rien n'est impossible. Mais vraiment, c'est très très difficile. Mais ce qui est vrai, nous appelons simplement au chef de l'État, tous les responsables de l'équipe décisionnelle, de pouvoir bien choisir de personnes qui vont rayonner avec justesse pour l'intérêt du peuple, la vision du chef de l'État. Parce que nous voulons que le chef de l'État, cette fois-ci, puisse réussir. C'est notre souhait ardent et nous voulons l'accompagner utilement, franchement.
Et pour que le chef de l'État puisse en tout cas réussir à son deuxième mandat, comme vous venez de le dire, il faut qu'il travaille avec des gens qui sont compétents et qui pourront bien l'accompagner dans sa vision et des gens qui sont d'une probité morale éprouvée. Voilà, merci Zavis Feli d'avoir réagi depuis Lubumbashi. Notre réaction sur la page Facebook par nos auditeurs, c'est celle de Georges Nkana. La dénonciation faite par la CENI est un bon acte à suivre pour un pays qui est à la quête d'état de droit. Cependant, il est important que l'esprit de la corruption soit condamnable d'abord aux gens qui dirigent les hautes institutions pour descendre ensuite à la population. Mais il ne doit pas seulement dénoncer, mais aussi mettre ses prétendants candidat corrupteur à la disposition de la justice pour que cette dernière les condamne. Une fois que ces deux pouvoirs par des voies frauduleuses, on travaillera non pour la population, les pays, mais au contraire, le travail sera fait pour son ventre et sa poche, tout en pensant d'abord récupérer tout ce qu'il avait perdu comme argent. Et c'est à ce moment qu'on va leur rappeler que la fraude corrompt tout. Voilà, c'est la réaction de Georges Kana sur la page Facebook par nos auditeurs depuis la ville de Mbandaka. Et notre auditeur en ligne, c'est François Okunji, qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour François.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et à votre invité.
Vous avez la parole.
Merci bien. Monsieur le chevalier de la plume, Marcel, que la CENI nous fiche la paix. Elle est également pour beaucoup aux élections du 20 décembre 2023. Leur conscience est un juge infaillible. Ce communiqué-là renforce par contre cette corruption et éveille les nouveaux élus à leur première fois. La jurisprudence est déjà là, créée par elle-même avant la publication des résultats provisoires. Vous savez comment la CENI est arrivée à reporter cette publication-là, monsieur Marcel? Quelle est-ce que si elle a des preuves, qu'elle fait un communiqué d'intimidation quand certains candidats mobilisent les députés provinciaux pour le dépôt de leur candidature à ciel ouvert? N'est-ce pas déjà un mauvais signe? La prise en otage des élus avant les élections, autre chose que dira la CENI au regroupement politique qui impose leurs députés à voter les candidats même s'ils ne convainquent pas ces derniers, que dit la loi quant à ça? Donc, pour conclure, monsieur Marcel, s'il y a l'invité de la CENI qui est avec vous sur place ou qui vous suit en interaction, c'est qu'il y a aussi la corruption morale, à l'instar de la corruption financière. La corruption morale, c'est lorsque un regroupement politique, un camp politique prend en otage moralement, par un dictat politique, les élus pour voter pour un tel ticket ou un autre ticket, qui n'est pas de leur choix. C'est déjà une corruption morale que nous devons condamner tous. Voilà un peu, nous, chers, aujourd'hui, nous devons dire des vérités aux autorités qui nous suivent, que les choses doivent changer. Ils doivent laisser les députés libres, voter librement un gouverneur qui le profil répond favorablement à ce que la population a besoin. Voilà un peu ce que je pouvais partager avec les auditeurs et ceux-là qui nous suivent à travers le pays, le monde, M. Martin.
Voilà, merci à François Okunji. Depuis Kinshasa, un autre auditeur en ligne, c'est Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Maître Patrick Odia.
Oui, bonjour Marcel, bonjour à la radio Capi et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors vous également, vous pensez que cette mise en garde de la CENI par rapport à certains candidats prétendant à l'élection sénatoriale des gouverneurs et vice-gouverneurs de RDC qui essayent un peu d'essayer avec quelques tentatives de corruption des électeurs, vous pensez également que ça pourra rester à lettre morte?
Ça sera une lettre morte, Marcel, d'autant plus que la CENI est en difficulté d'éprouver ou d'apporter les éléments matériels, les éléments de preuves matérielles. Vous savez, la corruption ou les actes de corruption se passent entre, d'une part, les corrupteurs et d'autre part, les corrompus. Alors, qui des deux d'entre eux pourra avoir le courage de pouvoir dénoncer l'autre? voyez-vous que ça ne va pas se passer. Et dans les cas d'espèce, il s'agit des députés nationaux, provinciaux et sénateurs et gouverneurs qui probablement vont s'appeler dans des chambres et dans des salons et autres et se donner de l'argent. Voyez-vous, et ça a déjà commencé. Est-ce que la CENI est-elle en mesure d'éprouver, d'apporter un élément matériel pour pouvoir saisir les instances habilitées? Si peut-être du moins c'est du point de vue persuasif, je peux comprendre, mais ça n'a aucun impact sur le plan répressif. Soyons sérieux. Et de deux, la CENI en est également pour quelque chose. Nous avons décrié la corruption également, mais où étaient les machines à voter? Et dans les cas d'espèces aujourd'hui, on ne parle pas de machines à voter. On parle des sénateurs, on parle également des députés, des grands électeurs également. Nous suggérons et nous pensons en tant que patriotes que les élections indirectes aujourd'hui ne font qu'accumuler ou ne nous font que donner à porter l'expérience malheureuse de la corruption. D'où il faudrait revoir tout simplement les modes d'élection des gouverneurs, pourquoi pas également des sénateurs, qu'il soit une élection directe également, et nous aurons des mécanismes pouvant empêcher tant soit peu également les actes de corruption que nous avons décriés dans l'élection indirecte des sénateurs et des gouverneurs. Mais la CENI doit prendre d'une part les mesures correctives pour pouvoir finir alerter, ça c'est d'une part, mais les institutions judiciaires également ou la justice doivent également s'auto-saisir pour non seulement enquêter les services de sécurité, les services intelligents de l'État doivent être mis à profit pour permettre à dénicher. Je vous dis, il y a des vidéos qui circulent que dans des salons politiques, il y a également les députés qui ont été appelés d'une part pour un mot d'ordre. C'est de la corruption. La corruption ne pouvons pas voir que sur l'acte matériel, l'argent tout simplement. Mais elle peut également s'étudier au niveau moral ou psychologique. Lorsque vous recevez des gens et vous leur obligez un candidat, c'est de la corruption, c'est de l'intimidation.
Alors maître Patrick,
contraire à la démocratie.
Maître Patrick, puisque vous dites que cette fois-ci, c'est pas au niveau de la population en général, prenons les cas pour les gouverneurs, ça sera au niveau de députés provinciaux, dont vous estimez que c'est maintenant, en tout cas aux Congolais, aux vrais patriotes de bien ouvrir l'œil et puis de dénoncer. Parce qu'il faut accompagner à la CENI également cette agence, par exemple, de prévention des luttes contre la corruption qui veut bien apporter main forte à la CENI, c'est à tous les patriotes, parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'on pense tout ce qu'on pense de la classe politique congolaise, mais il y a quand même par-ci, par-là, des patriotes qui, j'estime, qui vont jouer ces rôles quand même de dénoncer chaque fois qu'ils auront eu à vendre de certains actes de corruption, et que si cela s'avérait vrai, il pourrait y avoir des poursuites exemplaires, parce qu'il faut qu'on aille de l'avant dans notre démocratie en RDC. Merci beaucoup, maître Patrick Audia, d'avoir appelé depuis le Bobachi. On va conclure avec notre invité, Itiel Batumouke. Alors, Itiel, vous l'avez dit, c'est encouragé, cette décision de la CENI, mais c'est encore, il faudra mettre vraiment des mécanismes qu'il faut en place pour arriver à mettre la main sur les auteurs de corruption par rapport à ces élections et surtout les sanctionner. Et vous avez dit, par exemple, l'agence de prévention des luttes contre la corruption peut prêter main forte à la CENI. Itiel Batumouke.
Exactement. Je pense que la CENI a bien fait de rappeler que la corruption est un fléau qui mine notre société. Son communiqué rappelle la nécessité d'avoir des élus qui le sont de manière loyale, qui le sont de manière éthique, parce que c'est cela aussi le renforcement de la démocratie. Un élu qui a corrompu ne sera jamais redevable, il ne reviendra jamais en vacances parlementaires et il ne fera pas comme les auditeurs l'ont dit, les projets d'intérêt commun, parce qu'il aura en priorité le retour sur investissement, en fait. Parce qu'il aura investi son argent pour être gouverneur ou sénateur, et il ne cherchera à avoir qu'un retour sur son investissement. Et donc, il faut aujourd'hui aller dans le sens de réprimer davantage ces pratiques de corruption pour essayer de rendre redevables les personnes qui seront élues à l'issue de ces scrutins indirects. Cela passe par non seulement, comme on a dit, l'activisme de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption,
oui,
pour qu'elle prête main forte à la CENI, mais aussi il faut dès à présent commencer à imaginer pour le prochain cycle électoral, des réformes qui pourraient être de manière à assurer la transparence et la crédibilité et surtout lutter contre la corruption à ce niveau des élections. Et donc, s'il faudrait toucher à la Constitution...
On est déjà à la fin, Itielé. On est à la fin rapidement, en 10 secondes.
Non, j'ai conclu. Merci.
Voilà, merci beaucoup Itielé Batoumiké. Je rappelle que vous êtes chercheur à Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à Pierre Diassine, qui est à la mise en œuvre, la grâce Voisolo, qui a assuré la coordination et la réalisation au micro. C'était Marcel Ngomoba. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.